Terroir Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 13 juin 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous, à la une de nos informations. Le M23 occupe Bunagana, dans l'est de la RDC, à la frontière ougandaise. Dans le nord du Burkina, au moins 50 civils ont été tués dans une attaque de djihadistes présumés à Seitanga. Au Mali, l'armée française quitte la ville de Menaka, avant-dernière étape du départ de Barkhane. Ouverture à Abidjan de l'Africa CEO Forum avec 1500 chefs d'entreprise et décideurs politiques qui se tient jusqu'à demain mardi. Ici aux États-Unis, accord au Sénat sur les armes à feu, un compromis bien en deçà des réformes réclamées par le président Joe Biden. Ne manque pas dans cette session d'information la minute éco et des sports, mais tout d'abord le journal. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 se sont emparés de la ville de Bunagana, dans l'est près de la frontière avec l'Ouganda. Cela fait suite à des combats contre l'armée congolaise, dont certains éléments se sont repliés vers l'Ouganda, selon des sources locales. Le point tout de suite avec Abdourahman Dia.
Un officier congolais sous couvert d'anonymat a reconnu la prise de Bunagana, un important centre de commerce transfrontalier par le M23. L'armée vient de céder en entrant en Ouganda, a indiqué de son côté Damien Sebusanane, un responsable d'une association locale de la société civile qui se trouvait ce lundi matin à la frontière ougandaise. Un camion de l'armée vient de passer, quatre jeeps et d'autres véhicules pleins de militaires, a-t-il ajouté, estimant à une centaine le nombre de militaires congolais partis se réfugier en Ouganda. Selon une autre source humanitaire, ces militaires se sont retrouvés acculés à Bunagana sans autre voie de sortie que la frontière lors de nouveaux affrontements violents qui avaient éclaté dimanche matin. De précédents combats avaient déjà provoqué depuis fin mars la fuite de milliers d'habitants vers l'Ouganda et Rutshuru. Le Haut Commissariat aux réfugiés signale ce lundi matin 368 arrivées supplémentaires en Ouganda depuis Bunagana. L'armée congolaise a de nouveau accusé dimanche le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali dément.
Le Rwanda a estimé aujourd'hui que la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, prend parti pour Kinshasa alors que les tensions montent entre les deux pays qui s'accusent d'attaques transfrontalières. Répondant à un tweet du porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, réaffirmant l'attachement de l'ONU à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC, la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a déclaré ce lundi que la souveraineté de tous les pays est égale, que ce soit le Rwanda ou la RDC. Au Burkina Faso, au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées dans l'attaque de Seitenga dans le Sahel dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement. Les autorités demandent l'accompagnement de tous pour faire face à cette guerre contre le terrorisme. Les détails avec notre correspondant au Burkina Faso, Lamine Traoré.
Le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo face aux journalistes annonce la mort de 50 civils dans l'attaque de Seitenga dans le Sahel ce week-end. Un bilan bien provisoire et le nombre de morts pourrait évoluer selon le porte-parole du gouvernement qui attribue l'attaque à des hommes armés. L'attaque a provoqué un mouvement de population vers Dori, la capitale de la région du Sahel, indique Lionel Bilgo. Il rassure que l'armée reste engagée.
L'armée tient debout, déterminée et engagée pour cette lutte terroriste-là. Jamais nous ne laisserons le Burkina Faso péricliter. C'est notre devoir en tant que citoyens.
Le gouvernement a lancé un appel aux populations à faire taire les divergences et faire front commun pour lutter contre le terrorisme. Dimanche, quatre policiers ont été tués, deux portés disparus et deux autres blessés à Yakouta, dans la même province, selon un communiqué de la police ce lundi. Plus tôt samedi, six villageois ont été tués à Alga, dans la commune rurale de Bourzanga, dans le centre-nord, selon des sources locales. Jeudi dernier, 11 gendarmes ont été tués dans l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie à Seitenga, dans la même province du Séno. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'armée française va quitter aujourd'hui la base militaire de Menaka dans le nord-est du Mali et remettre les clés aux forces armées maliennes avant dernière étape du départ de la force Barkhane, a indiqué l'état-major français. Les militaires français vont quitter le Mali pour de bon à la fin de l'été, avec le transfert au Fama de leur principale base de Gao, a souligné le porte-parole de l'état-major, le général Pascal Yanni. Une attaque djihadiste pourrait intervenir contre la ville de Menaka après le départ de l'armée française de cette localité, a indiqué aujourd'hui Al-Ghassoum Won, l'émissaire de l'ONU au Mali. Quelques 1500 chefs d'entreprise et décideurs politiques africains sont réunis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'Africa CEO Forum veut mettre l'accent sur la souveraineté économique du continent. À l'ouverture de ce forum, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est dit préoccupé par l'inflation et le risque de pénurie de blé en Afrique. John Lydon.
Nous sommes préoccupés, c'est le moins que je puisse dire, par le ralentissement de la croissance mondiale et la disponibilité pour l'Afrique de certains produits comme le blé, les engrais et bien sûr par la poussée inflationniste, a déclaré le président ivoirien à l'ouverture de l'Africa CEO Forum. Cette rencontre réunit 1500 chefs d'entreprise et décideurs politiques jusqu'à mardi à Abidjan. Outre la crise en Ukraine, M. Ouattara a cité l'exemple de l'Inde qui a interdit les exportations de blé. Une telle situation inflationniste, selon M. Ouattara, pousse les gouvernements et les entreprises à réévaluer leur dépendance aux réseaux internationaux. Cette convergence des crises offre au continent africain une occasion unique d'opérer les changements structurels nécessaires à la transformation de nos économies, a, de son côté, affirmé Makhtar Diop, directeur de la Société financière internationale, la SFI, filiale de la Banque mondiale chargée de l'investissement privé.
Le principal opposant guinéen, Sélo Dalem Diallo, a refusé de se rendre à sa convocation prévue ce lundi devant une cour spéciale anticorruption instaurée par la junte au pouvoir. Sa convocation datée du 24 mai et circulant sur les réseaux sociaux précisait que son inculpation pouvait être envisagée pour les faits présumés de détournement de deniers publics, corruption d'agents publics, enrichissement illicite. Un chef rebelle de Casamance en fuite et deux autres personnes ont été condamnées ce lundi à la prison à perpétuité, a indiqué leur avocat. Chef d'une faction militaire du mouvement des forces démocratiques de Casamance et jugé par contumace, César Atout Badiat et Omar Ampoy Boudian, membre du MFDC et un journaliste, René Capin-Bassène, ont été condamnés à la prison à vie par le tribunal de Zingueshore, a fait savoir leur avocat, Maître Siré Clédorli. Le tribunal a suivi les réquisitions prononcées par le parquet en avril.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, des sénateurs républicains et démocrates ont annoncé hier un accord sur quelques mesures visant à restreindre l'accès aux armes à feu. Ce compromis, intervenu dimanche, est loin de satisfaire les demandes de dizaines de milliers d'Américains qui ont manifesté la veille pour réclamer de fortes réformes. Les détails avec Mohamed Oumfa.
L'accord met en avant le soutien par le gouvernement fédéral des lois qui permettraient de retirer des mains des personnes jugées dangereuses les armes qu'elles possèdent. Les sénateurs souhaitent aussi renforcer la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans, ainsi qu'un meilleur contrôle de la vente illégale d'armes. L'accord prévoit le financement de programmes de soutien et d'aide psychologique et le renforcement de la sécurité dans les écoles. Ce compromis est bien loin de ce que réclamaient des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues samedi dans les rues pour demander des réformes fortes au Congrès. Ces manifestants exigent l'interdiction des fusils d'assaut, des chargeurs à grande capacité et les vérifications des antécédents pour l'ensemble des acheteurs d'armes et pas seulement pour les moins de 21 ans. Les manifestants ont aussi réclamé l'obligation pour les particuliers de garder sous clé leurs armes.
ONU, Michelle Bachelet renonce à un second mandat. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme n'a donné aucune explication aux délégués présents dans la salle, mais une porte-parole a indiqué qu'elle avait fait ce choix pour des raisons personnelles. Ces derniers mois, les États-Unis lui ont reproché ce qu'ils perçoivent comme une attitude trop laxiste face aux violations des droits humains par la Chine. Et puis les deux forces arrivées en tête du premier tour des élections législatives en France, Ensemble et la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, ont lancé ce lundi la bataille du second tour, dont l'issue sera décisive pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
À l'ouverture de l'Africa CEO Forum à Abidjan, qui réunit des chefs d'entreprise et décideurs jusqu'à demain, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est dit préoccupé par le ralentissement de la croissance, l'inflation et la pénurie de produits comme le blé et les engrais. Cette situation pousse les États africains à réévaluer leur dépendance aux réseaux internationaux, a souligné M. Ouattara. Même inquiétude samedi à Niamey lors d'une rencontre du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire de l'UMOA, présidé par le chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum. 40% des besoins en engrais sont satisfaits, a dit le président de la commission de l'UMOA, Abdoulaye Diop, précisant que la recommandation de M. Bazoum est d'agir sur le long terme pour augmenter la production au niveau régional. Le gouvernement tanzanien a signé un accord de 30 milliards de dollars ce week-end avec les entreprises britanniques Shell et norvégiennes Equinor pour la construction d'un terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié à Lindi, dans le sud du pays. La cérémonie de signature s'est tenue à Dodoma en présence de la présidente Samia Suluhu Hassan, qui a relancé ce projet resté en suspens sous son prédécesseur John Magufuli.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
De l'athlétisme pour commencer, les championnats d'Afrique se sont achevés hier à Maurice.
Oui, le Nigeria a malmené Sao Tomé et Principe 10-0 avec un quadruplé de Victor Osimhen et un doublé d'Emmanuel Denis. La dernière rencontre de cette deuxième journée oppose le Maroc au Libéria. Les deux prochaines journées sont prévues pour septembre 2022 et les deux dernières en mars 2023 avant la phase finale prévue en Côte d'Ivoire en juin-juillet 2023.
Football, les matchs qualificatifs pour la CAN des moins de 17 ans ont débuté.
C'est la zone UFOA-B qui a lancé les hostilités à Cape Coast au Ghana avec une entrée en lice ratée pour le pays hôte dans le groupe A. Battu par le Nigeria 4-2, les jeunes Ghanéens ont l'obligation d'arracher la victoire. Lors de la deuxième sortie, dans le groupe B, le Bénin et le Burkina Faso partagent la première place. Après leur succès respectif 3-2 contre la Côte d'Ivoire et 2-1 face au Niger, il n'y a pas de match aujourd'hui. La compétition reprend demain avec les rencontres de la deuxième journée dans la poule A. La phase finale est prévue en Algérie en 2023.
Football toujours, les 5 changements validés définitivement.
Les 5 changements par équipe et par match au lieu de 3 ont été validés définitivement par l'International Board, garant des lois du football. Cela ouvre la voie à des listes de 26 joueurs et non plus 23 pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, un souhait de nombreux sélectionneurs. La pérennisation au 1er juillet du passage de 3 à 5 changements par match dans toutes les compétitions organisées par la FIFA répond aux souhaits des acteurs du jeu, explique Patrick Nelson, le dirigeant de la Fédération irlandaise. Les essais de changement définitif en cas de commotion cérébrale ont aussi été prolongés jusqu'en août 2023 afin de collecter suffisamment de données pour prendre une décision scientifique valide.
Giorgio Chiellini rejoint la MLS, la Ligue nord-américaine de football.
Le défenseur italien s'est engagé avec le Los Angeles FC jusqu'à la fin de la saison 2023, confirme la franchise californienne. Âgé de 37 ans, Giorgio Chiellini a fait ses adieux à la Juventus où il a joué pendant 17 ans, remportant 9 titres de champion d'Italie et à la Nationale, avec laquelle il a joué 117 fois, décrochant l'Euro l'été dernier à Londres. Il évoluera dans une équipe qui domine le championnat avec 29 points glanés en 14 matchs et désireuse de remporter son MLS. Il devrait faire ses débuts après l'ouverture officielle du mercato estival le 7 juillet. Le lendemain, l'attendra El Trafico, entendez, le derby face au Galaxy.
Basketball, le match numéro 5 de la finale NBA se joue ce soir.
Retour au Chase Center de San Francisco, l'antre des Warriors, Boston et Golden State sont à égalité, 2 victoires partout dans cette finale NBA. C'est la finale, a résumé la star des Celtics, Jason Tatum, ajoutant « ça ne va pas être facile ». Ça ne devrait pas l'être. Sur les 4 matchs déjà disputés, les Warriors sont légèrement devant en termes de points glanés, 422 contre 421 pour les Celtics.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, la Tabaski ou fête du mouton approche à grands pas, alors que les tensions politiques et les dures réalités économiques secouent les populations. Ces derniers appellent les hommes politiques à plus de responsabilités et l'État à apporter des solutions à la conjoncture économique. La correspondance de Seydina Abagay, notre correspondant à Dakar.
Le 10 juillet 2022, premier jour de la campagne électorale, va coïncider avec la Tabaski d'après les premières annonces de la commission du croissant lunaire qui est chargée de fixer les jours de fête musulmane au Sénégal. Beaucoup de citoyens, comme Vieux Diop, espèrent une accalmie durant cette période.
On lance un appel aux politiciens pour qu'ils ne profitent pas de la crise économique pour mettre la population dans des situations difficiles en attisant des tensions. C'est valable pour le parti au pouvoir comme pour l'opposition. Ils doivent respecter les Sénégalais et les institutions pour consolider les acquis démocratiques.
Mais ils respectent les institutions, oui.
Babaya espère de son côté que les hommes politiques ne vont pas pénaliser les commerçants avec des appels à manifester qui risquent de créer des affrontements.
Bon, tension, il parce que
les tensions politiques ne font que mettre le pays dans l'impasse. Avec la Tabaski qui se profile, les gens ont d'autres soucis en tête que les manifestations ou les violences politiques qui les empêchent de vaquer à leurs occupations. En réalité, les manifestations impactent sur le gagne-pain des populations en bloquant leur circulation ou en les obligeant à fermer très tôt leur commerce. En cette période de préparatifs pour la Tabaski, ça risque d'être compliqué à gérer.
Les autorités doivent parler moins politique et gérer la crise que traverse le pays. C'est la conviction de Serigne
Baye.
C'est difficile de circuler. L'essence est chère, les prix des transports aussi. Avant de parler de la politique, il faut s'occuper du bien-être des populations. La flambée des denrées de première nécessité est inexplicable. On dirait que la régulation des marchés publics n'est pas effective, car les prix grimpent sans cesse. Il faudrait que l'État nous explique ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une surveillance par rapport à la hausse des prix? Il faut éclairer la lanterne des Sénégalais.
À moins d'un mois de la fête de Tabaski et du début de la campagne électorale pour les législatives, beaucoup de Sénégalais sont préoccupés par la situation économique tendue. Pour eux, les hommes politiques doivent plus penser aux intérêts de la population en pareille circonstance. C'est Nabagaya Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, il y a de nombreuses personnes non-voyantes qui ne sont pas nées avec ce handicap. Des épreuves qui peuvent survenir à n'importe quel âge au cours de la vie. Comment vivent-elles ce passage de la vie de voyant à celle de non-voyant? Aïcha Diarra nous en parle depuis la Côte d'Ivoire.
Vraiment, quand on perd la vue nouvellement, c'est pas facile, pas du tout facile. Quel que soit le soutien que les gens vont faire pour, vraiment, c'est pas facile. Vraiment, c'est Dieu même qui nous aide vraiment à soutenir vraiment ce petit temps-là. Et quand c'est comme ça, tu perds tout.
Abdoulaye Koné a perdu la vue alors qu'il avait presque 20 ans, l'âge de tous les espoirs. Comme lui, Bassoro Kamaraté avait 30 ans et venait de finir son stage à l'Institut Pasteur d'Abidjan après un BTS en chimie contrôle qualité. Il a été rappelé quelques mois plus tard pour la signature d'un contrat avec l'Institut Pasteur. Alors, il les informe qu'il est devenu non-voyant.
Ne croyant pas, le premier responsable a demandé mon numéro et il m'a appelé pour me déplacer à l'Institut Pasteur. Et c'est ainsi que je me suis rendu à l'Institut Pasteur. Et lui-même, il s'est rendu compte que, effectivement, c'est une réalité. Si on perd la vue, sincèrement, c'est comme on enlevait même la terre sous tes pieds. Je vous assure, c'est pas chose facile. Quand j'ai perdu la vue, c'est un seul de mes amis qui m'est resté fidèle. Un seul, Sogodogo Daouda.
Des difficultés qui s'étendent même sous souvent jusqu'au sein de ta propre famille.
Même à la maison, c'est difficile. Et souvent, les gens, ils ont toujours dans leur tête que tu vois. Oh, c'est pas ça. Pour m'adapter à la maison, il faut maintenant leur dire tout ce que je dépose. Je veux pas que quelqu'un déplace pour pouvoir me retrouver facilement. Sinon, ça devient difficile et fastidieux quand tu dois maintenant venir te mettre à chercher.
Baroma Kounadi a perdu la vue à l'âge de 12 ans alors qu'elle était en classe de 6e. Et elle aussi, elle a comme vue son monde s'écrouler devant elle.
J'aimais beaucoup jouer au foot. J'aimais beaucoup regarder aussi le foot. En tout cas, tout ce qui est amusement, j'aimais bien ça. Et puis, découvrir les différents endroits. Et puis moi, pendant que j'étais valide, j'ai jamais vu de non-voyant. Donc, quand moi, je suis devenue non-voyante, j'ai pensé que j'étais la seule non-voyante au monde. Je me rappelle même que lorsque papa est venu m'annoncer que je dois intégrer l'Institut des aveugles, systématiquement, j'ai fondu en larmes parce que moi, j'avais pas dans le programme de fréquenter l'Institut des aveugles, de faire comme les non-voyants. J'avais pas ça en programme. Pour moi, c'était un mal passager. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
D'autres comme Mamadou Abdelkader ont pensé même au suicide.
Tu passes à gauche, tu as du mal à marcher. Tu vas à droite, tu as du mal à marcher. Même quand par moi je venais, que je voulais jouer au foot. Ah, toi, quitte là, attends, mais tu ne vas pas bien, mais tu es joué au ballon. On s'appelait que toutes ces frustrations-là, vraiment, j'avais du mal à supporter. Puis un jour où je me suis assis en plein milieu de la cour et puis j'ai pris une machette. Et maintenant, aujourd'hui, là, tout va finir. En ce moment, j'avais là de 15 ans. J'ai bien aiguisé la machette. Ma tante, quand elle a vu ça, vraiment, elle est intervenue. Elle est le plus vite. Et puis elle m'a arraché ça. Elle m'a dit, plus jamais je vais faire ça. Et c'est cette dernière-là maintenant qui a commencé maintenant à me faire des remontrances, à me dire maintenant des belles paroles pour m'encourager à surmonter le mal.
Donc perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. C'est une devise de l'Institut des aveugles d'Abidjan. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Maroc, de plus en plus de migrants disent se faire contrôler, arrêter, voire refouler par les forces auxiliaires marocaines. Pour beaucoup de migrants venus d'Afrique subsaharienne, la seule raison de ces tracas est la couleur de peau noire. Certaines interpellations musclées ont conduit à un drame fin janvier avec le décès d'un jeune Camerounais. Le reportage de notre correspondant à Tanger, Léo Coquel.
Les forces auxiliaires marocaines sont reconnaissables de loin par leur treillis et leur casquette kaki. À Tanger, ce groupe paramilitaire sous tutelle du ministère de l'Intérieur est craint par tous les migrants subsahariens pour leur méthode musclée. Le témoignage d'un migrant qui a souhaité garder l'anonymat pour sa propre sécurité.
Il y a la peur toujours, tu es sans papier. Et il y a la méfiance, tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas aller partout où tu veux.
Ce témoin âgé de 26 ans est originaire de Guinée. En 2 années passées dans la ville du Détroit, il a déjà été arrêté 5 fois par la police. La dernière interpellation remonte au printemps. Il les juge motivés par le racisme, mais ne veut pas faire de vagues.
Je marchais, j'attendais un taxi, et puis ils viennent, ils te demandent ta carte. Et une fois ils savent que tu n'as pas la carte, voilà, ils te disent donc monte dans la voiture pour aller faire le contrôle. Je ne force pas, parce qu'ils sont violents, ils sont nombreux, donc j'ai pas envie de me battre.
Jusqu'à maintenant, il s'est toujours tiré d'affaire, même s'il a déjà été refoulé à plusieurs reprises à l'autre bout du pays, à Benimelal, dans le Moyen Atlas, et à Safi, plus de 600 km au sud de Tanger. D'autres compagnons d'infortune ont été beaucoup moins chanceux. Le 20 janvier de cette année, Jean-Marie Bihina, 33 ans, originaire du Cameroun, est interpellé sur un marché de la ville. Embarqué dans une fourgonnette, il est lâché sur l'autoroute entre les villes d'Assila et Larache. Il sera retrouvé mort et abandonné le long de cette voie rapide. À la suite de cette tragédie, c'est son amie, la libraire Stéphanie Gaou, qui la raconte.
Ce qu'on a comme données, c'est que dans la nuit du jeudi au vendredi, il aurait été percuté par une voiture sur l'autoroute. Quand la disparition de Jean a été avéré et qu'il a fallu faire appel à des gens qui le connaissaient pour pouvoir aller identifier son corps à la morgue, est ressorti un membre de sa famille qui vit à Rabat. Et à ce moment-là, la famille au Cameroun a souhaité récupérer le corps. Et donc je me suis chargée avec la promesse d'aller jusqu'au bout, de rapatrier le corps de Jean au Cameroun. Donc on a fait une caisse de solidarité, il y a beaucoup de gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, et on a pu retourner le corps.
À Tanger, ce fait divers a provoqué une onde de choc au sein de la communauté camerounaise. Joël, un musicien de 37 ans, est partagé entre colère et résignation.
En fait, comme si rien n'était, quoi. On sourit toujours, tu vois. Même s'il y a la douleur dans le cœur, mais on est toujours resté dans la joie. On est obligé, on n'a pas le choix. Parce que si tu veux lever ta main contre un Marocain ici, là, tu vas comprendre que tu n'es pas chez toi ici.
Pour l'artiste camerounais, il n'y a aucun doute. Les forces auxiliaires reçoivent des ordres pour effectuer des contrôles aux faciès seulement envers les personnes noires.
Ils arrêtent des Marocains ici noirs. Moi, j'ai vu des gens arrêter une Américaine ici, black. En février, il y a une Guadeloupéenne qui est venue ici dernièrement. Et elle m'a dit, il y a vraiment du racisme ici, dans ce pays. Et cela, elle m'a ouvert son cœur pour me dire que... À peine elle arrive, c'est qu'elle découvre le danger pour la première fois. On a craché sur elle.
Officiellement, Rabat ne mène aucune politique de refoulement des migrants subsahariens. Et plus de 4 ans après le dépôt de sa demande d'adhésion à la CEDEAO, le Maroc attend toujours les migrants aussi. Léo Coquel à Tanger pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une commission de la Chambre des représentants reprend ses audiences après son enquête sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Les premières audiences publiques aux heures de grande écoute ont eu lieu jeudi soir. Maintenant, ce panel de 9 membres, dont 7 démocrates et 2 républicains, devrait se concentrer sur le rôle du président Donald Trump dans cette attaque. Le reportage d'Arash Arabassadi, le récit est de Nani Talani.
Jusqu'à présent, les membres de commission rejettent la faute sur l'ancien président Donald Trump, selon laquelle les élections de novembre 2020 lui ont été volées.
Nous nous battons comme l'enfer. Et si vous ne vous battez pas comme l'enfer, vous n'aurez plus de pays.
Le démocrate Adam Schiff, membre de cette commission, a pris la parole dimanche dans l'émission This Week sur la chaîne ABC.
La preuve est très forte que Donald Trump a commencé à dire de gros mensonges avant même les élections. Il disait que tous les bulletins comptés après le jour du scrutin allaient être intrinsèquement suspects. Ce mensonge a continué après les élections et a finalement conduit cette foule à attaquer le Capitole.
Rappelons les événements de cette journée, les législateurs se sont concentrés sur l'inaction du président Trump alors que ses partisans attaquaient le Congrès. Certains ont scandé pour que le vice-président de l'époque, Mike Pence, soit pendu si Pence ne prenait pas de mesures extraordinaires pour renverser les résultats des élections. Liz Cheney, l'une des 2 républicaines de la commission d'enquête, s'exprimant lors de l'audience.
President Trump was yelling and quote really angry at advisors who told.
Le président Trump criait et disait être vraiment en colère contre les conseillers qui lui avaient dit qu'il devait faire quelque chose de plus. Et conscient des réclamations des émeutiers pour la tête de Mike Pence. Le président a répondu, peut-être que nos partisans ont la bonne idée, Mike Pence, je cite, le mérite.
Liz Cheney a qualifié de déshonorante la réticence de ses collègues républicains à tenir tête à l'ancien président. D'autres membres de son parti veulent regarder vers l'avant et non vers le passé. Don Bacon, représentant républicain du Nebraska.
Je vois les choses de cette façon. Trump est déjà parti. Je pense que nous devrions regarder plus en avant à ce sujet, mais nous verrons quelles seront les preuves concernant l'ancien président. Je dirais simplement que ce qu'il a fait était mal. Il aurait dû parler. En ce qui concerne les questions juridiques, je suis un peu moins confiant, je ne suis pas avocat.
Lors de l'audience, des agents de la police du Congrès ont témoigné sur ces événements du 6 janvier 2021. Caroline Edwards, de la police du Capitole.
Ce que j'ai vu n'était qu'une scène de guerre. C'était comme quelque chose que j'avais vu dans les films. Je ne pouvais pas croire à mes yeux. Il y avait des officiers sur le terrain. Ils saignaient, ils vomissaient. Ils étaient, vous savez, ils avaient, je veux dire, j'ai vu des amis avec du sang sur le visage. Je glissais dans le sang des gens.
Plus de 800 personnes ont été arrêtées en rapport avec l'attaque du Capitole. Donald Trump a qualifié les membres de la commission de pirates politiques. Les émeutes ont eu lieu le jour où le Congrès devait certifier les résultats des élections et proclamer Joe Biden vainqueur et 46e président des États-Unis qui va prêter serment 2 semaines plus tard.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui, sur 101.7 FM. Kledou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.